And when we talk, as we will know, about legalising prostitution, what happens in my country, and I'm sure what happens everywhere in the world, is that people assume that it means decriminalise the women who are selling sex, which every one of us should support. But what legalisation actually means is decriminalising pimping, trafficking, brothel owning, and buying of sex. And so it's something that I applaud you for resisting. And it's like the anti-abortion campaigns. It will come up again and again and again. And the reason why myself and my colleague from the university decided to design this research project was because of the resistance to the reality that women really do not want to be in prostitution. Of course, there will be a handful of atypical women and men who have a second home, whose children go to private school, who make so much money from prostitution, who are so happy in it that we need never worry about her or him, because we'll never ever see them accessing services. But we do not build a law, do we, on a tiny minority of atypical people. And I'm assuming that you've all seen the film Pretty Woman with Richard Gere, Julia Roberts. You've all seen it? Yeah? Biggest piece of propaganda about prostitution ever. Have you ever wondered why there isn't, as Hollywood always does with a successful movie, make sequels 2, 3, 4, 5? Why isn't there a Pretty Woman 2, 3? I'll tell you why. Because there is no happy ending for Julia Roberts. Because what will happen the first time they have an argument? What will he say to her? You filthy whore. If you don't watch your step, you'll be back on the fucking streets. And we know that the only way that women exit prostitution, if they don't have support and if they don't have targeted intervention, is in a coffin, in a mental hospital, in the most horrific of circumstances. So that's why we're doing the work that we're doing. And it's to counter the dreadful propaganda from the pro-sex work lobby that women do not need help to get out. All we need to do, they say, is help them stay in. Give them condoms, give them needles for injections, give them towels in the brothels, but don't help them get out, because we'll stigmatise them. Well, that's not what we found, interestingly. We researched this topic for 2 years, joint with Eves, an NGO that I'm a consultant for, and a criminology department at the University London South Bank, of one of only 3 academics in the UK who openly and publicly say that prostitution is bad for women. And even more extraordinary, my partner in this research is a man, a criminologist, and he is, after 30 years of researching this, absolutely clear that women do not want to be in this. It's the largest study of its kind so far in the UK, and we think elsewhere. And we adopted a feminist methodology by which we listened to the voices of the women. We also interviewed a number of others, of professionals, of experts, of supporters, of community members. But we wanted the women to experience being interviewed by us as part of the process of exiting. Now, none of us could claim that this sample of 114 women that we interviewed at length, sometimes twice, 6 months down the line, could be representative of women in the entire sex industry. How could we? We would have to do a prevalence study. We can't access women unless they go to support services or answer our emails if we contact them through their websites, etc. So, of course, the majority of women who we interviewed had already asked for support. Even so, with that caveat, our findings are very interesting in the sense that there is far less difference between the experiences of women working on street and off street than we would be led to believe by those saying all we need to do to keep women safe is to get them off the street and put them indoors. No. No. So you can see how many interviews we did. By stakeholder interviews, we mean those that police officers, NGOs, staff in medical centres, those that run services for women. And also we talked to people who live and work around the areas where prostitution is visible. Our key findings, and this is across the sample, so we had one third that were working off street, the rest were on street. We found, not surprisingly, that almost a third had entered prostitution before the age of 18, which obviously is child abuse, and yet we don't recognise it as such. When somebody reaches the age of 18, they don't all of a sudden think, oh, do you know what? I could be a researcher. I could be a journalist. I think I'll be a street prostitute instead. And you can see from the quotes here how the women felt about their experiences. And a huge 79% had reported ill health, both physical and mental ill health. And this is during their time in prostitution. Another interesting issue is how many of the women working off street had also had childhood violence, neglect, sexual abuse, had been in care in residential settings. And, of course, drug use and drug misuse was prevalent across the sample. But many of the women developed drug and alcohol misuse after they had been prostituted. And again, this myth that women go into prostitution to earn money for drugs, not necessarily the case at all. Half reported coercion, pimping, grooming, being kept in prostitution by a boyfriend, a husband, a regular pimp, a trafficker. Where men used to, if they had drug habits, go out and steal, mug people in the street, increasingly they're putting women into prostitution, their partners into prostitution. And what do we find? That support services funded by the government to control sexually transmitted infections are calling these men their boyfriends to the women, which means that the women can't come back and say, but he's my pimp. So this attempt to destigmatise prostitution actually stops the women from seeking help and telling their story. Every study so far into prostitution and its abuse has found that homelessness is a massive factor for women. Many of them are forced to continue to prostitute in order to keep their accommodation, to keep safe from other buyers. But the evidence of violence is grim. Some of the women in these interviews talked about things that they'd never talked about before, because the majority of what's available for women in terms of help across the world just maintains them, gives them a cup of tea, helps them put their makeup on, gives them an appointment with a nurse to see if they've got a sexually transmitted infection, but don't offer exiting services. So 84% of the sample across street and off street, for example, said that they had experienced violence, sexual, physical, emotional. 61% said this was from the buyers. So these men, these nice, sweet men who just go and access women in prostitution because their wives don't understand them, or because they're disabled, or because they don't have time to date. 61% of women told us that they'd had abuse from them. These men do not become nice when they're paying for sex. And of course, we know that pimping is still massively prevalent, even though we're told that crack and heroin is the new pimp, that there's no such thing as pimping, that to talk about pimping is racist because of the old connotations of African American men or Asian men being involved in pimping. It's just an excuse to suggest that the women are individual entrepreneurs with no coercion. There are huge barriers, we found, to women exiting prostitution. And this is why we did the research. And this is why I hope that you do this research and that anyone who can get the resources to do this will produce your own sample. Because this isn't going to be that different around the world, unless you're talking about developing countries with fewer resources even than women in prostitution access elsewhere. And you can see that the number of barriers facing street and off-street women, there's not that much difference between the two. And of course, drug use is a barrier because often the women can't access support and rehabilitation for that. But so is housing. So is being in debt to a pimp, a trafficker, or just because she has children that nobody else will provide for. Coercion, of course, we know about that. They're not allowed to leave because of their boyfriends, partners putting them out on the street. And then there's, of course, the physical and mental health problems. There's criminal records, childhood violence, the fact that they're trafficked. And those that entered prostitution below the age of 18 suffered multiple barriers. Because, of course, as one interviewee said, it's the only life I know. There are different stages that the women go through. And stage 1 to 5, which is what we identified from our 114 interviews, they're not linear. You don't necessarily start at stage 1 and end at stage 5 and it's all quick and neat and easy. But the stages are pretty common across all of the women that we talk to. Stage 1, you have to identify and work with the woman when she's ready, when she's engaged. There's no point the police picking her up and saying, unless you stop prostituting, you're going to be in court. There has to be somebody there available to give her the support that she needs. That treatment and support at stage 2 has to exist, has to be appropriate. She may lapse and reverse. She may take 2 steps forward and 1 step back. That's fine. That happens with stopping smoking. It happens with all kinds of changes that we make in our life. And yet often when these women relapse, professionals think that they're too hard to work with, which is outrageous. Transition and stabilisation means that we have to help women see hope in their lives, see that there is something out there, alternative to prostitution. And some women say, you gave me hope before I even had hope myself. You had faith in me before I even developed that. Because the women's self-esteem is at rock bottom. And then stage 4, reconstructing and rebuilding lives. They've lost their children, maybe. Their health will never return to how it was. They've lost contact with their family, with their loved ones, with any hope of a career because they have criminal records. And stage 5, maybe it's about building a new identity, new roles. And one woman said to me, I knew that I was ready to get out and stay out because I stopped thinking of myself as a prostitute. My identity became something else. and we give her that identity, both as prostitute, because we consider her less worthy than those of us who aren't, but we can also give her that new identity of human being. And I want to read you this quote, because what's so important about the research that we did was how many women told us that they had not ever been offered exiting as an option by the support services that are set up by the health board, that are set up by those that think that sex work is fine, that it's a viable career choice, that it's a job like any other. And one worker in one of these organisations actually said in an interview, "I consider exiting to be an affront to human dignity. I am proud to offer harm minimisation." How disgusting is that? Because she thought prostitution was a viable career choice. She thought it should be for all of her service users. She prevented those women from exiting. She told us, and those of us that are abolitionist, that we were forcing women to exit. Forced exiting. That was a moment, a light bulb moment for me. The idea that somebody would genuinely believe that. And this woman who we interviewed, who'd been prostituted from childhood, said, "I think not talking about it, exiting, would just be really detrimental. I mean, you're already kind of with the most marginalised group, and it's really important to be given a voice and to be talking about exiting. I think even like someone asking you about exiting, it challenges, well, it challenged me, in the sense of, oh, well, perhaps things could be different. And it did give me that hope. Please imagine working with domestic violence survivors and not talking about them leaving the violent relationship. There are real practical applications and key components to how we do this work. And we have to give the women a motivation and a reason to attempt change, and the hope and belief that there is an opportunity to exit. And we need to time the intervention appropriately for her. Women are different. We know this through domestic violence. We know this through forced marriage. We know that it has to be tailor-made for the women. And that reason to change, it can be a gradual process. It can be a sudden turning point. Somebody might die. She might have a chance to get her child back. She might get pregnant. She may meet somebody who she loves and who isn't abusive. She may go to prison, come off drugs. It can be anything. One woman I know exited because she found a puppy abandoned in a park. And that puppy loved her unconditionally. And she was able to relate to something that gave her love for the first time in her life. It can be anything. New relationships. One woman said she couldn't bear to see her partner upset at the idea that she was being prostituted. Another woman said when she had a baby that when she actually saw the baby, she realised she couldn't lose her. She couldn't bear to lose her. That was enough for her. Then there's violent incidents. Somebody pulled a knife on her, raped her. She was determined to get out. I have never, ever interviewed a woman in prostitution who has not experienced at least one life-threatening incident. Maturation. One day, a woman just thinks, I've had enough. Now, if we're not there to support her to get out, if we make the wrong intervention, she may never ask for help again. Hope. Lack of hope can be because you enter at a very young age. Not all women can imagine a life beyond prostitution. That support service can be the key to her making that change. We can empower women to take back their own lives, give women hope for the future, because many women in prostitution don't have a future. They live from hour to hour. Opportunities present in different ways. It can be that you remove the pimp, you remove the violent man. Wouldn't that be good? Maybe it's a life-changing event like we've discussed. Education, skills, employment. We have to lobby our governments to stop criminalising the women who sell sex. We have to do that. We have to look for turning points, and we have to talk honestly and openly to her. And we know that this is very important when it's the right time for her. Again, I make an analogy with domestic violence. Those of you that have worked in refuges, worked with women who are being battered, if you say to her at the wrong time, get out now, it can cost a life. If you don't say to her, get out now, at the right time, it can cost a life. Another quote from an interviewee. I don't think I was aware that such services existed. I knew there were quite a few services that did street outreach and harm minimisation and stuff. But in terms of support actually getting out of it, yeah, like when I mentioned that to another agency that I'd been to, they were almost a bit, I don't know, he didn't take it very well. It's almost like they were quite offended. We also have to look at the prostitution policies that we develop locally, nationally, internationally. We have to avoid a hierarchical approach where we see women on street as being in danger, imminent danger, and women off street as being hidden away and perfectly safe. That's not the case. We need to offer support throughout the entire sector, and that includes lap dancing clubs, brothels, saunas, massage parlours, on street and off street. And we can't just provide exiting services for women on street. We must break that habit. And I just want to end by saying just a little bit about how developing these services, doing this research, and enabling practitioners to work with women to get out, that we're met with a political and an ideological resistance to this. It is not the same as the work we do on rape, on domestic violence, on forced marriage even, on any harmful practices that affect women. Because there is a pimp lobby that's motivated by profit, that has its spokespeople who will tell you that women do not want to be saved by those of us who they call the rescue industry. They say that what we're doing is interfering in the right for women to have a great life working in prostitution. But if you open up the possibility for women to exit, if you present sound, evidence-based research like this, that shows that if women are asked in the right way, they will tell you that yes, that's what they want, then that's all we need to counter what they're saying to us. We cannot continue listening to the pimp lobby tell us that all women need is dignity and decriminalisation and better places from which to work. In order to help women exit, we have to also tell our governments that we need to run awareness-raising campaigns about the reality of prostitution. Because there are so many myths that we start to even believe them ourselves. And talking to these 114 women and hearing their voices means that what we hear from them is an open and free, honest discussion about how prostitution is the worst thing that can happen to women, not the oldest profession. And I always said, and I hope that I don't ever get to this, that the next time I hear the phrase the oldest profession, I might have to arm myself with something. because as we know, it's the oldest oppression. And so we owe it to women to think about developing services for them that's based on the reality of their lives, not the pimp lobby. Thank you.
Merci beaucoup, Julie Binder. Vous pouvez comprendre pourquoi on tenait à avoir Julie parmi nous pour pouvoir s'inspirer à la fois pour le travail qu'on fait déjà et qu'on veut continuer à faire, plus particulièrement pour démontrer que les femmes souhaitent sortir de la prostitution et que le problème, c'est qu'il manque de services pour les soutenir dans leur processus pour sortir de la prostitution. Et comme féministe, je pense qu'on a effectivement tout le background, pour utiliser un terme anglais, nécessaire pour effectivement faire une analyse de la situation des femmes dans la prostitution qui se rapproche de notre compréhension, de notre regard sur les rapports inégaux entre les femmes et les hommes et les rapports socio-économiques inégaux également qui peuvent exister en différents groupes puisque, comme vous le savez, pour celles et ceux qui connaissent le discours de l'athlée, le discours abolitionniste, pour nous, l'industrie du sexe est d'abord et avant tout profiteuse de l'extrême pauvreté dans laquelle les femmes se retrouvent majoritairement, en fait plus souvent que les hommes, et également la situation que certaines femmes, soit immigrantes, soit des femmes racisées, vivent de par leur manque de statut, entre guillemets, ici au Canada ou au Québec, et par le racisme au quotidien que nous vivons ici même au Québec, évidemment. Et donc, pour nous, c'est important de travailler dans cette perspective à la fois contre le sexisme, contre l'industrie qui profite effectivement des femmes pour s'enrichir et pour se donner un vernis de plus en plus légitime, malheureusement, en essayant de décriminaliser totalement la prostitution et de soutenir également les femmes, particulièrement les femmes racisées et les femmes immigrantes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et je vais sur ce donner la parole à ma collègue Lydia Bouchard, tout nouvellement arrivée à l'atelier depuis le mois d'août, seulement qu'elle travaille avec nous. Et on voulait particulièrement pouvoir profiter de l'expertise de Claudia parce qu'elle est d'abord et avant tout une militante féministe qui a contribué à la création de plein de groupes, de collectifs et d'actions, entre autres contre la prostitution ou contre la banalisation de la prostitution au Saguenay. C'est une jeune femme qui arrive du Saguenay et qui a une maîtrise, un baccalauréat de maîtrise en travail social, qui a contribué entre autres à la création du collectif du 18 août, que peut-être certaines d'entre vous ou certains d'entre vous connaissent, qui est un collectif de jeunes féministes du coin, abolitionnistes, qui ont décidé de répondre à une situation qui s'était passée au Saguenay où une jeune femme dans la prostitution avait été tuée, en fait, par un de ses, on peut supposer, le prostitueur. Il avait été trouvé coupable, si je me souviens bien.
Non, innocenté.
Il a été innocenté. Donc, le collectif a décidé, effectivement, de faire à chaque année, en fait, des événements pour ne pas oublier cette jeune femme-là, mais ne pas oublier non plus notre responsabilité collective de faire en sorte que d'autres, aucune autre jeune femme se retrouve dans cette situation-là. Et elle a été également intervenante en maison d'hébergement pour femmes en difficulté vivant de la violence conjugale. Et elle va nous parler aujourd'hui justement des services que nous offrons à l'athlée, notre vision aussi sur le service pour les femmes souhaitant sortir de la prostitution ou étant dans la prostitution. Claudia.
Alors, merci Diane. Donc, moi, je suis intervenante à la CLI, comme le souligne Diane, et aussi responsable de tout le volet des services. Ce volet-là, comme Diane aussi a introduit tout à l'heure, est vraiment en pleine effervescence, en plein développement, en fait. Et les services dont je vais vous parler aujourd'hui tendent aussi à se développer. Évidemment que grâce aux connaissances qu'on va acquérir de par le projet de recherche qu'on mène et qu'on va mener, on va aussi probablement pouvoir adapter et continuer à développer ces services-là selon les besoins des femmes elles-mêmes. Je vais commencer par vous dresser un bref portrait des femmes qui viennent à la CLI. Parce qu'il y a toutes sortes de femmes, en fait, qui fréquentent notre organisme. Je pense que ça peut être intéressant de faire un petit portrait. Donc, il y a à la fois des femmes qui ne sont plus dans l'industrie du sexe. Donc, c'est souvent des femmes qui viennent vers nous, qui sont déjà sorties depuis plusieurs années même, et qui viennent à l'organisme pour diverses raisons. Souvent, les femmes arrivent avec comme principale motivation d'aider d'autres femmes, même si elles ont nécessairement des besoins elles-mêmes. veulent souvent aider d'autres femmes, veulent s'impliquer, donc arrivent à la clé pour ces raisons-là. Des femmes qui ont toujours un vécu dans la prostitution, donc qui sont toujours à l'intérieur de l'industrie du sexe, qui sont aussi à la clé et à qui on offre aussi un soutien. Également des proches des femmes qui sont dans le milieu de la prostitution, souvent des mères qui nous téléphonent parce qu'elles veulent maintenir ou améliorer le contact avec leurs filles, soutenir leurs filles. Alors nous téléphonons aussi pour avoir un certain soutien. Aussi des femmes qui sont à risque, parce que tout le volet, bon, aussi prévention de la clé. Donc aussi des femmes qui sont à risque d'aller vers l'industrie du sexe. Certaines, quelques fois, qui sont arrivées, qui nous ont dit « ben je veux du soutien, sinon je sais que c'est là que je vais aller si je n'ai pas d'autre choix que ça. » Donc, comme le disait Diane, depuis 2008, on a eu des contacts environ avec une centaine de femmes, principalement de Montréal, mais aussi d'ailleurs au Québec. Et donc, il y a aussi plusieurs de ces femmes-là qui sont passées, mais il y en a plusieurs aussi qui sont toujours à l'organisme, qui sont impliquées dans nos différents communautés, donc avec qui on a toujours eu le contact. Alors, pour ce qui concerne les services qu'offre la clé, évidemment que c'est fort diversifié. Les besoins des femmes, dépendamment de où est-ce qu'elles sont dans leur cheminement, dépendamment de où est-ce qu'elles arrivent, sont très, très variables. Et donc, les services aussi le sont, évidemment. On est des personnes très polyvalentes. Donc, il y a tout le volet. En fait, on soutient les besoins de base. Souvent, les femmes qui arrivent ont besoin d'argent et rapidement. Donc, il y a tout le volet, en fait, de soutien financier. La clé fait depuis quelques années des prêts aux femmes. Par exemple, ça peut être pour l'achat de vêtements, pour un nouvel emploi, pour payer une dette, parce que bon, souvent, je pense que c'est quelque chose qui ressort aussi dans la recherche de Mme Bindel. Les femmes ont souvent des dettes, en fait, parce qu'elles sortent du milieu de la prostitution. Ça peut, bon, tout aussi bien être des prêts pour un achat de médicaments, pour payer un premier loyer. Donc, ça, c'est une facette qui est très, très importante à la clé. Il y a aussi tout le volet, bon, de l'accompagnement, accompagnement pour des trucs de base, pour se rendre à l'hôpital, pour aller à l'épicerie. Tu sais, aussi, on facilite l'accessibilité aux femmes à des services de soins de santé. On a, entre autres, certains partenariats avec des professionnels de la santé. On peut penser à, bon, une ostéopathe, à des services de santé plus alternatifs, des services gynécologiques, par exemple. Donc, soit on accompagne les femmes ou on fait des références pour faciliter leur accessibilité à ces services-là. Bon, tout le soutien aussi dans la recherche de logement, la recherche d'emploi. Et aussi, lorsque ce sont des femmes qui s'impliquent à la clé, ça arrive souvent aussi qu'on peut faire des références, en fait, lorsqu'elles cherchent un emploi. Souvent, les femmes qui sortent du milieu, lorsqu'elles ont été plusieurs années dans le milieu de la prostitution, n'ont pas nécessairement beaucoup de références à donner à un nouvel employeur. Donc, lorsque les femmes sont impliquées, qu'on les connaît, bien, c'est quelque chose qu'on peut faire qui peut donner un coup de main, en fait, à ces femmes-là. Donc, c'est à peu près ça pour les besoins de base, en fait. Sinon, il y a tout le volet soutien psychologique, soit formel ou informel, parce que c'est pas nécessairement toujours du soutien, bon, de un à un dans un bureau. Ça peut tout aussi bien être du soutien psychologique informel. Soit ça peut être aussi du soutien téléphonique. On a une ligne téléphonique d'urgence où les femmes peuvent nous rejoindre. Donc, à la fois le jour, mais également le soir et la fin de semaine. On peut également faire des rencontres individualisées pour le soutien psychologique. Il est clair qu'on travaille beaucoup avec les femmes sur les conséquences de la violence qu'elles ont vécue d'une forme ou l'autre. Et les femmes, comme le dit Julie tout à l'heure, rares sont les femmes qui n'ont vécu aucun épisode de violence, si on parle juste à la violence physique, mais comme toute autre forme de violence. C'est un gros travail qui est à faire. Évidemment, lorsqu'on parle de conséquences de la violence, on peut penser à tous les impacts que ça a sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine pour les femmes. On mise à la clé beaucoup sur le soutien entre pairs, parce que les femmes ne font pas que venir chercher des services à la clé, elles viennent aussi pour s'impliquer, en fait. À la clé, on trouve très, très important que les femmes puissent se regrouper aussi ensemble pour s'entraider entre elles. Et donc, il y a, par exemple, des rencontres de groupe qu'il y a déjà eu, qu'il n'y a pas actuellement, mais bon, qui est une priorité pour nous. Il y a tout le volet des défenses de droits. Les femmes, souvent, on peut faire du soutien dans les démarches judiciaires pour la revendication de leurs droits, ou si on pense à l'aide sociale, par exemple. Si je peux dire une petite histoire, il est arrivé pour une femme, par exemple, qu'on lui donne un coup de main pour effacer une dette à l'aide sociale, une dette de plus de 10 000 $ donc on a pu faire avec elle un travail pour faire effacer cette dette-là. Et évidemment que pour une femme, ça peut faire une grosse différence parce que cette dette-là peut être effacée. On parle aussi du soutien dans les démarches à l'IVAC, par exemple, lorsque les femmes sont victimes d'actes criminels. Donc, on peut faire un accompagnement dans ces démarches-là, démarches qui ne sont pas toujours faciles, en fait. Démarches qui sont souvent aussi à moyen, long terme. Donc, c'est assez long. La clé, donc, représente pour les femmes pas juste, comme je vous disais, une place où elles viennent chercher des services, mais puis aussi pour plusieurs un milieu d'appartenance. Elles viennent à la clé, comme je disais, pour venir avoir du soutien, mais pour soutenir aussi, viennent chercher un lieu pour militer aussi quelquefois. Les femmes qui arrivent ont besoin d'avoir espoir, comme disait Julie, en un monde sans prostitution. Et donc, à la clé, peuvent avoir un lieu, en fait, pour militer, pour se réseauter et pour lutter en vue de ce monde-là, exempt de prostitution pour les femmes. Et donc, c'est un lieu aussi où est-ce qu'elles peuvent créer des nouveaux liens. Pour une femme qui sort de la prostitution, souvent, ça passe aussi par, comment dire, un certain tri dans leur relation sociale pour en venir qu'à avoir des relations qui sont positives pour elles. Alors, la clé peut faciliter ça aussi pour les femmes. Elle peut représenter aussi un milieu sécuritaire pour qu'elles puissent être entendues dans ce qu'elles ont vécu. Un milieu sécuritaire pour parler de leur expérience sans être jugées. Aussi, bon, comme je vous disais, les femmes viennent chercher du soutien, viennent s'impliquer. Il arrive aussi que certaines femmes qui ont vécu en lien avec la prostitution puissent avoir un travail aussi à la clé. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont été dans la prostitution qui font partie de notre équipe de travailleuses également. Donc, elles sont impliquées un petit peu partout. Et je pense que c'est ce qui fait la force aussi de la clé. Alors, bien sommairement, je pense que ça fait un petit peu le portrait des services qui sont offerts actuellement. Comme je vous dis, nos services sont en constant développement selon les réflexions, selon l'implication aussi de femmes qui ont vécu en lien avec la prostitution. Et c'est clair que dans les mois à venir, dans les années à venir, ces services-là tendent à évoluer grandement. Et donc, c'est ça aussi à la lueur de cette recherche-là qui va arriver dans la prochaine année ou deux, on peut croire. Sinon, les prochaines avenues de développement pour la clé, on prévoit consolider notre fonds de soutien aux femmes. Comme je disais tout à l'heure, on fait des prêts financiers aux femmes, donc on tend à élargir ça. D'ailleurs, je fais une petite publicité pour notre Abolo Boom. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour à notre table, mais le 8 décembre prochain, on organise une soirée de financement où est-ce que seront avancés des fonds qui iront directement dans le fonds de soutien aux femmes. La consolidation de ce fonds-là pour pouvoir aider plus de femmes aussi directement lorsqu'elles ont des besoins financiers pour leur donner une impulsion, en fait, pour pouvoir sortir de la prostitution. Comme je dis aussi, on favorise aussi beaucoup l'entraide entre les femmes. On a tout un projet d'équipe de solidarité, en fait, de créer un groupe de femmes qui pourraient s'impliquer selon leurs intérêts, selon leurs forces, pour aider d'autres femmes. Par exemple, une femme pourrait dire « ben moi, je suis prête, j'ai des compétences pour aider une femme dans ses devoirs si elle veut retourner aux études », alors elle pourrait être sur une liste de femmes, de militantes, si on peut dire, qui pourraient aider, disons, qu'une femme qui sort de la prostitution retourne aux études, donc pourrait être jumelée, en fait, à une femme dans l'équipe de solidarité pour avoir un certain soutien. Donc, tout le développement de l'entraide aussi entre femmes qu'on vise à faire dans la prochaine année. On a aussi un plan d'élaborer un programme de sortie. C'est pas encore très structuré, mais un programme où les femmes pourraient être, disons, pendant 3 ou 4 mois, à être rémunérées pour pouvoir travailler sur elles et pour pouvoir s'outiller, en fait, pour sortir de la prostitution et se réorienter ailleurs où est-ce qu'elles le désirent. Évidemment, on est toujours en train d'explorer aussi les partenariats avec les organismes qui nous entourent. Donc, ça, c'est tout un pan aussi pour lequel on va se pencher dans les prochains mois. Si on peut penser à tout le volet hébergement pour les femmes. Donc, c'est souvent un besoin, comme le disait Julie Bindel, de créer, de solidifier les partenariats avec les organismes qui travaillent en hébergement pour que les intervenantes qui les reçoivent aussi soient outillées, soient informées sur la réalité que les femmes vivent. Ça, c'est très, très important. Parce que, bon, Diane disait tout à l'heure, moi, je travaillais en maison d'hébergement avant, puis c'est une réalité qu'on ne nommait même pas. C'est comme un tabou, en fait. Et les femmes qui viennent n'en parlent juste pas si elles sont dans la prostitution, puis les intervenantes ne posent pas de questions non plus. Alors, ça, c'est tout un pan aussi qu'on voudrait améliorer, qu'on voudrait développer. Les organismes avec qui on voudrait être en partenariat, évidemment, on a déjà certains liens, mais tout le volet employabilité pour la réinsertion des femmes sur le marché du travail, en santé mentale, pour qu'il y ait des services qui soient adaptés à la réalité des femmes qui veulent sortir de la prostitution en toxicomanie. Donc, tout un pan aussi qu'on veut continuer à développer de partenariats avec les autres organismes. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs avenues de développement. Évidemment que s'il y a des gens ici qui désirent s'impliquer dans les différents comités de la CLE, on est tout à fait ouvertes à des nouvelles militantes. Alors, c'est à peu près ça pour les services de la CLE.